juste une petite précision. Je n'ai pas compris le service d'accompagnement. Je ne suis pas suivie. Qu'est-ce que c'est? Tu as parlé d'accompagnement.
C'est à Valence.
Ah oui, sur Valence.
Oui, c'est ça.
Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a fini par avoir l'expérience que c'est la position qu'on a dans les contextes et les situations qui peut être déterminante. Et c'est-à-dire que c'est une posture, quoi. C'est une manière d'être dans les choses. Parce qu'en gros, je peux le dire de cette manière-là. Donc nous, il y aura un livre qui expliquera ce qu'on a fait, mais on a fait des choses assez étonnantes, en plus, avant les jardins. Hein. Avec les enfants et puis avec les cas sociaux extrêmes dans la ZUP. Mais par exemple, à un moment, on avait la possibilité, puisqu'on était accompagné par les institutions, on n'a jamais fait de choses sans les institutions, mais je ne sais pas si je réponds parce que je ne comprends pas bien la question, mais par exemple, on voulait qu'il y avait plusieurs registres d'action. Et un qui devait se faire envers les jeunes qui étaient à certains moments comme ça dans l'inaction totale, voilà. Et en fait, on a trouvé un animateur qui était jeune aussi, et en fait, on a dit, attention, tu ne dois pas apparaître comme un animateur, parce que tu ne pourras pas agir si tu apparais comme un animateur, parce que dans ces quartiers, c'est la population qui, sans que ce soit coordonné, fait en sorte que certaines personnes n'aient jamais accès à l'information. On appelle ça un kystage, c'est pas la peine. Donc. Et dès que ce jeune, il est apparu comme il était trop disponible, il est apparu comme un animateur, on a arrêté l'activité. Parce que voilà. Et parce que si on est un habitant, on est comme la personne. Si tu habites, t'es comme la personne. Et t'es pas quelqu'un qui... C'est pas ça la question. Je ne comprends pas
Ce que je ne comprends pas là maintenant dans le détail que tu es en train d'expliquer, comment ça se fait que vous soyez arrivé à Valence à partir de ce que vous faisiez sur Ardennes, sur les moutons, sur les camps.
Donc j'illustre juste comment on rentre. Voilà, parce que c'est comment on rentre dans un domaine. La manière de rentrer, elle est déterminante. Si on a pu faire tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'on a été tondeur pour les éleveurs. On n'a pas été un agent du développement qui vient dire, ben voilà le problème des moutons, voilà comment on peut le traiter. Non, on devient tondeur. Voilà. C'est cette manière de prendre les choses. Alors maintenant, comment on est arrivé? Donc, Valence est notre ville. C'est la ville de la vallée. Il n'y a pas de ville et les gens ils vont faire les grandes courses à Valence. C'est à une heure, mais il n'y a pas d'autre solution là-bas. Ensuite, c'est une ville historique du tricotage. Parce que c'était les Arméniens qui tricotaient. Voilà. Donc, c'est moins connu maintenant, où ils ont donné l'information, mais c'était ça. Donc, quand on a voulu faire du tricotage, on a été là-bas. Et en fait, on a appris avec les Arméniens, il y avait encore des petits ateliers arméniens à l'ancienne, où voilà, et on a avancé là-dedans, mais on ne savait pas où mettre à l'atelier. On est à une heure, vous voyez, donc on se disait, mais ça ne nous intéressait pas au départ de mettre à Valence, mais la compétence était à Valence, et on a demandé à des gens qui voulaient nous aider pour monter l'atelier. Il n'était pas question pour eux d'aller dans la montagne. Il n'était pas question. Donc on était un peu coincé avec ça. On a essayé de trouver un compromis au milieu, quoi, qu'on fasse la moitié du. Parce qu'il y a plein de bâtiments industriels en déshérence, hein, donc ça pourrait se faire. Et puis après, c'est les circonstances. C'est comment on rentre une grande. C'est les circonstances. C'est-à-dire qu'on avait un des fondateurs qui, lui, n'était pas très rural. Donc lui, il avait fait sa vie, il était parti d'Ardelaine assez rapidement. Et il vivait à Valence. Et lui, il était déjà dans un programme de conciliation de la justice. Parce qu'il y avait, un procureur génial à Valence, d'ailleurs ça sera écrit, qui avait été préfet en Algérie, et qui s'était rendu compte qu'il faisait un bilan assez critique de notre justice et vis-à-vis des justices primitives. Voilà. Et là, on est arrêté, mais il doit être décédé maintenant, mais on a tous son témoignage et ce sera dans le livre. Et voilà ce qu'il avait pris sur lui. Il avait agréé des civils pour faire de la médiation auprès des conflits qui engorgeaient la justice, le tribunal de voisinage. Et notre copain, il était là-dedans. Donc en fait, voilà, il habitait là aussi. Donc il s'était mis habitant, alors que c'était plutôt au moment des gens qui ne se mettent pas dans les U. Hein. Et donc ça veut dire que ça nous a permis de rencontrer des responsables. Et on a trouvé un responsable. D'ailleurs, il n'est pas resté longtemps parce qu'il n'était pas suivi, mais finalement, on était juste dans la situation où la vie des rez-de-chaussée était infernale. Et qu'on commençait à mettre des grilles dans les rez-de-chaussée. Ça s'est fait partout, hein. Parce que le bruit, les gamins, enfin bon, tout, et puis peut-être même casser les vitres, ou
les larcins.
Les larcins et tout ça, voilà. Et donc, lui, il avait la réflexion, et en fait, c'était intéressant. Très avancé, ça a donné les zones franches, mais qui n'ont rien à voir, parce que les zones franches, ils les ont fait à côté des U, mais pas dans les U. Lui, il se dit, c'est pas la peine de faire ça. Il suffit de ne pas habiter les rez-de-chaussée, et de faire venir des activités dans la rez-de-chaussée. Voilà, de la réflexion. Et on discutait avec lui directement, parce qu'il était là-dessus, il y avait d'autres choses, on discutait de plein de choses, il était très ouvert, et lui-même, il était focalisé là-dessus. Mais comme il était un peu seul à penser ça, ça n'a pas débouché beaucoup. Mais comme nous, moi je cherchais un endroit, hein, c'est moi qui faisais ça, hein. Je suis dans le bâtiment, moi, donc j'étais toujours dans ces trucs-là, de l'urbanisme aussi, j'étais là-dedans. Et donc, dans nos discussions, il a dit, ben, moi, si je peux vous aider, et donc c'est parti, on a fait en dessous d'immeuble, on s'est installé, nous, à Ardelaine. Et après, j'ai négocié des appartements pour les gens qui travaillent, et c'est comme ça que les gens qui travaillent se retrouvent habitants. Donc, il y avait presque une cage d'escalier de gens qui étaient, avec notre culture. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est la manière de prendre les choses. Moi, je venais dans l'éducation
populaire. Un nouveau famille mystère, c'est ça.
C'était une cage d'escalier. oui, parce que nous, on avait quand même réussi un moment à négocier. Il y avait plein d'étudiants des Beaux-Arts qui avaient 10 endroits dans Valence et puis qui avaient des vies infernales. Et enfin, on avait négocié qu'ils déclassent des F5. Et qu'il y a des colloques d'étudiants. Donc on avait la possibilité de négocier parce qu'il y avait un responsable intelligent à cette époque-là. Et donc après ça s'est accéléré et donc on s'est installé. Et après c'est parce que nous on fait toujours des activités en dehors de l'économie. On a toujours une association, quand on est dans un lieu agricole, on a une structure agricole, une structure associative, une structure coopérative pour pouvoir agir réellement. Et donc... les gens qui étaient là-bas, petit à petit, avec ce que nous on appelle les formes de l'éducation populaire, ils se sont mis. Alors pour montrer comment on prend les choses, c'est Myriam. Myriam, donc on a eu le prix s'engager pour les quartiers nationaux, et Myriam qui est la personne principale dans cette histoire-là, elle a eu la Légion d'honneur. Donc ça c'est le résultat. Alors comment ça commence? Eh bien, ça commence qu'il y avait le long des parkings, il y avait des bacs de béton à peu près comme ça, là, qui au départ c'était des petits arbustes. Mais là c'était des vidanges. C'était rasé, il n'y avait plus rien voilà, qui était là. Et donc elle s'est emparée des bacs et elle a réussi à trouver des appuis avec les services techniques ou des choses comme ça. Et elle a distribué un bac à un enfant. Donc, mais c'était, je crois que c'est 80-100 bacs. Hein. Donc vous voyez à peu près ce que ça représente. Et les gamins ont peint du bac, et puis après on a changé la terre qui était des bacs. Oui. Et puis chaque gamin avait son jardin dans le bac en béton. Et alors voilà l'expérience d'après. C'est qu'en gros, tout se détruit hein, à cette époque-là, les ados, voilà. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse de ça, mais c'est le fait. Et ben, quand un ado s'approchait d'un des bacs, il y avait trois fenêtres qui s'ouvraient et trois mamans qui disaient « Tu ne fais pas un pas de plus, c'est le bac d'un tel, barre-toi. » Voilà, c'est l'appropriation. C'est l'appropriation. Et puis c'est le fait. Voilà, et donc, c'est en avançant comme ça que, en fait, finalement, on devient un acteur d'accompagnement du progrès social. Et bien, ça part par les enfants, puis ça a été approuvé les jardins. Et pour prendre les jardins, ça fait 2 ans de porte-à-porte dans l'immeuble Effet 500 habitants avec 120 logements. Ça a été 2 ans d'aller discuter avec l'un, puis après de négocier avec de l'autre côté. Et après d'arriver à la première expérimentation de jardin, ça a été 20 familles. Et puis l'autre expérience institutionnelle, c'est que quand ça brûlait à côté, alors qu'il y avait des barrières ridicules, ça n'a jamais brûlé dans les jardins. Pourquoi ? Parce que c'est les familles qui ont les jardins. C'est les vieux qui sont là. Donc en gros, tu ne touches pas au jardin. Hein. Donc c'est l'appropriation. Enfin, c'est toute une manière de faire qui fait que ça avance doucement et de soi-même. Alors que les éducateurs, même il a fallu nous qu'on retourne pour arriver à développer l'idée des professionnels des espaces verts. Maintenant, ils sont complètement à fond. Hein. Mais au début, autre exemple, on avait fermé une cour à un moment et on faisait, ça donnait du boulot aux jeunes, il y avait tout un programme là-dessus, c'est nous qui l'animons, avec les chantiers, on savait faire ça. Et donc, le gars qui était responsable, c'est lui qui devait faire dans l'espace qui avait été fermé, qui était un parking avant, il devait mettre des plantes. Et alors nous, on avait discuté avec lui, on a dit, mais pourquoi dans la ZUP à Valence, il y a des arbustes qui sont partout, c'est des trucs épineux, c'est à peu près le niveau des yeux des enfants, pourquoi vous faites ça? Parce qu'on ne s'en occupe pas. Autre chose, à Valence, il y a du vent, ça veut dire qu'en plus, ça se remplit de plastique. Mais à peu près, le truc pourri, quoi. Et nous, on dit au gars qui ne sort pas de son bureau et qui dessine le jardin, eh ben, il nous met des épineux. Parce que lui, il met des épineux. C'est tout. Eh ben, nous, on a arraché les épineux. On les a arrachés, quoi. On les a arrivés. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, et puis on est revenu expliquer aux professionnels, vous voyez, ce que non, on ne peut pas supporter ça. Donc c'est en étant au milieu de la chose que c'est pas on ne fait pas pour les gens, on fait avec. C'est le avec, quoi, c'est simplement avec. Et c'est, ça marche parce qu'on est des habitants. Il faut être habitant pour être sûr de. Et alors maintenant, il faut savoir que les jardins, c'est une chose, mais en fait, Myriam qui est au centre de ça, eh ben, c'est la police qui lui vient demander des choses, quoi. Et elle a réglé un problème, tiens, un truc très simple. Je fais que du concret, hein, ça va ? Donc, il y a un moment, ça brûlait, les voitures brûlaient. Alors après, quand tu es dans le quartier, tu sais qu'il y a des gens des autres quartiers qui viennent brûler leurs voitures qu'ils ont volées là, parce que, ouais, et puis c'est une espèce de jeu complètement idiot. Et en fait, à un moment, ça brûlait plus que d'habitude. Et donc, ils ont demandé à Myriam, qu'est-ce que tu en penses ? Et enfin, elle a dit, c'est pas les jeunes, et ni les délinquants, parce qu'ils travaillent la nuit. Et voilà, donc ça se passait le matin à 6-7 heures, donc c'était pas ça. C'est un pyromane. Donc c'est son observation qui a fait qu'ils ont cherché le pyromane, et ils ont trouvé le pyromane. Parce qu'elle était au milieu, mais les policiers ne peuvent pas savoir. Les policiers n'ont aucune possibilité de savoir ce qui se passe, et même les éducateurs. Moi, j'étais dans l'urbanisme, donc on nous demandait notre avis sur l'urbanisme. Et par exemple, il y a un concept d'urbanisme dans les UD de transparence. Transparence. Et d'où ça sort, ça? Et tous les gens qui travaillent et qui viennent dans les commissions, chez eux, c'est pas transparent. Hein. Ils sont fermés chez eux et c'est tout. Voilà, donc tout ça, c'est des trucs invraisemblables qui se vivent, mais qu'on ne peut pas connaître. Dans les yeux, tu ne peux pas trouver une adresse. Et après, tu apprends des choses. Dans leur manière, tu apprends que, ah oui, tiens, à tel endroit, on a changé les sorties de rue. Tu vois, parce qu'il y a des gros travaux, ils sortent de l'autre côté, ils n'ont pas changé les adresses. Donc en fait, c'est ces choses-là qu'on peut voir que si on est dedans.
Moi, je voudrais poser une question parce que, en fait, vous êtes dans un système autogestionnaire.
Oui, on ne le dit pas comme ça, nous, parce que nous, on évite les mots qui ont des connotations un peu trop...
Je veux dire, et puis, bon, le fonctionnement, c'est en fait ensemble. J'ai bien compris que c'est en fait ensemble qu'on fait les choses.
C'est faire ensemble.
Quand il y a un élément, parce que c'est difficile, quand il y a un élément dans le groupe, puisqu'au départ, enfin, ça n'a peut-être pas été dit ce soir, mais vous étiez que 7-8 bénévoles. Quand il y a un élément qui n'est pas à sa place... Comment ça se passe? Parce qu'ensemble, c'est bien quand tout le monde va dans le même sens. Ouais. Et parce qu'à des moments, il y a eu des tiraillements. Parce que là, à écouter, on dirait que...
Oui,
je me sens, moi...
Mais bien sûr, c'est parce que je raconte 50 ans. Là. Et c'est pour montrer ce que ça a produit. Mais en fait, je ne parle pas du quotidien. On a vécu le quotidien ordinaire, on peut dire. C'est pas... voilà, c'est la vie, quoi, le reste. Et alors après, si on...
Ce que je veux dire, est-ce que c'est pas difficile à des moments de se séparer de personnes avec qui peut-être on a fait un bout de cheminement qui n'a pas voulu continuer ou qui...
Mais bien sûr que si. Ben oui. Oui, non, le problème c'est que en fait, c'est comment on arrive à continuer.
Oui.
C'est ça le problème, c'est toujours ça. Comment ça continue, quoi. Ouais. Alors, nous, souvent, on a jamais... tout le monde le sait plus ou moins. Nous, c'était consensuel, hein, c'est pendant très très longtemps. Mais maintenant, on est quand même sur le site 60, avec des activités incroyables. Donc, en gros, on a des formes d'organisation. Et puis, on n'est pas non plus... nous, on n'a jamais voulu être des militants au sens classique. Et on voulait créer des emplois. Il n'y avait plus d'emplois pour aucun jeune. Quand on a eu des moyens pour créer des emplois, si un jeune voulait trouver du boulot, on allait pas dire... va dans la vallée, nous on fait ce qu'on a à faire, pas du tout. Donc ça veut dire qu'on diversifie les gens qui sont là. Il y a des gens, ils ne savent même pas ce que c'est une coopérative, d'autres, etc. Donc en fait, mais ça c'est aussi le fait d'être pluriel, puisque nous on est des aides sociaux initiaux. En fait, la différence, ça fait partie du jeu, quoi. Ça c'est une facilité. Et après, l'autre chose aussi qu'on apprend petit à petit, c'est toujours relancer la machine. C'est plutôt ça, c'est la dynamique de groupe. Autre chose aussi, on n'a jamais décidé une chose simplement s'il y a une personne qui dit quelque chose contre, une seule. Parce que la capacité de détruire quelque chose ou de faire en sorte que ça se passe mal d'une seule personne quand vous êtes 10, elle est énorme. Et on le sait, ça, à partir du moment où on l'a compris, parce qu'on l'a vécu une fois, eh ben, on n'y joue plus. Et puis après, on apprend dans ces situations-là que ben, moi, j'étais pas d'accord, j'ai essayé de défendre mon avis, et puis je vois faire les choses, et puis j'avais tort. J'avais tort, quoi. Et alors, l'autre chose aussi, nous, on a, dans la phase initiale, chacun portait sa zone de compétence. Et on faisait confiance à la zone de compétence. Des choses comme ça. Voilà. Et puis après, on voyait si. C'est quand ça marche que ça marche. Il faut produire de la satisfaction, il faut que ça marche. Et s'il peut y avoir un consensus là-dessus, ça évite pas mal de choses. Mais en fait, tu peux tomber sur toutes les situations comme on trouve dans les familles, dans les sociétés. On les a vécues plus ou moins. Hein. Mais jamais dramatiquement. Pas assez pour casser la machine ou l'histoire.
Que devient la filature du départ avec sa propriétaire?
Eh bien, on l'a acheté. Oui. Donc, on a acheté les ruines, en fait, et la grand-mère. Et alors, après, en fait, on a récupéré les locaux. Et puis, maintenant, il y a 3000 mètres carrés, maintenant, à bâti. Il y a du neuf, il y a beaucoup de neuf. Hein. Tous les 10 ans, on a construit.
Oui, alors, ce qui fonctionne, c'est une filature.
Oui, alors, Ardelaine. Donc, vous verrez, Ardelaine, en fait, maintenant, on est une filière intégrée en vente directe, territorialisée, et la vente est nationale. Voilà, c'est ça le niveau. Et on est en ce moment, on est 56 salariés. Voilà, on a dépassé 2 millions de chiffre d'affaires.
Salariés ou collaborateurs, en fait, je veux dire, alors, comme dans une coopérative.
Ah oui, alors peut-être il faut dire c'est quoi une SCOP. Et l'USCOP, c'est une copropriété.
J'allais y arriver. Voilà, c'est ça, parce que
l'USCOP, c'est une copropriété.
C'est une évolution. De toute façon, chez vous, ça a été une évolution. Ce n'était pas la SCOP au début.
Si, si, ça a été SCOP de suite. Ah oui, parce que nous, en fait, avec notre phase exploratoire, donc achat des ruines en 1975, coopérative en 1982. Et donc, c'est toute la phase exploratoire intermédiaire. Et cette phase, on avait nos métiers, et c'est notre temps libre qui passait à comprendre. Mais en fait, on avait passé 7 ans là-dessus, quoi. Et donc, ça veut dire que le jour où on a cherché un statut pour faire une entreprise, on avait regardé un petit bouquin qui disait tout ça. Ouais, et puis, il y avait une demi-page sur les coopératives, parce que sur l'ensemble, sérieusement. Hein. Alors, on feuilletait, on n'arrivait pas, puis on a trouvé cette demi-page. C'était l'escorte, ça correspondait à exactement ce qu'on voulait comme structure, donc on a été ça. Alors c'est une copropriété, il faut être donc toujours, les gens qui travaillent doivent toujours être majoritaires au capital. Mais il y a du capital extérieur, il faut toujours être la majorité. Et l'autre chose aussi, c'est un homme, une voix. Les dirigeants sont élus. Sont élus, donc ils ne sont pas nommés par les financiers. Et c'est un homme une voix. Si vous amenez 10 et l'autre 1 dans les parts, c'est quand même un homme une voix. Voilà, vous avez à peu près la chose.
Et donc, pour répondre à sa question, coopérateur, 57 oui, salariés.
Alors dans l'histoire.
Les paysans, comment ils interviennent dedans, ouais. S'ils interviennent.
Alors, les paysans, en fait, la France, c'est quand même une particularité. C'est la frontière agricole en France. Il y a un droit agricole et un droit général. C'est une frontière. Et donc, en fait, ça ne passe pas. On ne peut pas passer la frontière. Donc, ils peuvent perdre. Alors, l'autre chose aussi. Nous, on travaille la laine, et il se trouve qu'au traité de Rome, la laine a été déclassée en tant que produit agricole. La laine n'est pas un produit agricole. Parce qu'à l'époque, c'était les industriels, le lobbying industriel qui s'est organisé pour que les agriculteurs ne s'occupent pas correctement de la chose. Et c'est juste au moment où ils ont commencé à disparaître. Donc ça, c'est idiot, mais c'est comme ça. Donc nous, on est une coopérative de droit général, et on ne peut pas passer la barrière du droit agricole. Donc c'est un souhait. Avec les clients solidaires, nous on voudrait, mais on espère, parce qu'on arrive à la retraite, ça sera des autres si ça les intéresse, de mettre tous ces gens-là dans la même histoire formellement. Pour l'instant,
Le statut est à créer, ça veut dire.
Ça, oui, c'est sur l'immigration. Oui. Mais je pense qu'on va y arriver, parce que ce monde agricole qui est en plus qui va disparaître, qui grève, et puis qui est toujours soutenu, mais en fait. Tout tenu, pourquoi moi, du temps de ma mère, moi, dans son panier, le panier de la ménagère, la part de la nourriture, elle était plus que le bio actuellement, hein, dans son budget. Donc ça veut dire qu'il suffirait qu'on paye plus cher la nourriture pour qu'il y ait plus d'agriculteurs. Allez. En fait, c'est comme tous les aléas, là, chez nous, il n'y a plus d'eau.
Excuse-moi, je ne suis pas. J'entends pas ce que tu dis.
C'est-à-dire le volume du son.
Volume du son.
Ah, je parle dans ma barbe. Mais il faudrait recentrer sur les questions. Je dis un peu dans tous les sens, non?
Oui, c'était. Qu'est-ce que c'était là?
La frontière entre le paysan
et. Ben, en France, il y a un droit agricole spécifique et il y a le droit général. Eh ben, c'est une frontière. Et les agriculteurs ont des droits et des capacités et des systèmes juridiques internes. Alors qu'en Italie, on peut faire dans la même structure de l'agriculture, de l'accueil, de la transformation, la même chose. On veut, et c'est une seule société. C'est pas possible en France. Donc nous, on ne peut pas faire actuellement. Alors les frontières sont en train de se dépasser. Avec les SIC, par exemple, on commence à dépasser des frontières entre public et privé. On arrive à faire des compositions. Donc c'est un chantier en cours. Il faudra un jour qu'en France, on arrive à avoir des choses comme ça.
Un exemple quand même qu'on est bien parmi chez nous, c'est quand même un mélange de deux activités, une agricole et l'autre qui l'est pas, qui est une activité hôtelière. Quand les paysans font une chambre d'hôte, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait deux structures, ça ne peut pas être une seule structure.
Voilà, à partir d'une certaine taille. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance, je crois même, de camping, de avoir six tentes. Tu vois, il y a des tolérances pour qu'ils arrivent à faire un peu de l'accueil, parce que c'est une manière diversifiée, sinon ils disparaîtraient.
C'est comme s'il fait du travaux publics, c'est pareil. S'il peut avoir une activité de travaux publics, jusqu'à un certain niveau.
Voilà. Donc, il faut... voilà. Et nous, on a ce problème-là. Avec notre histoire de modèle, on aimerait bien. Moi, c'est simplement un rêve. Alors, par rapport au problème coopératif, c'est amusant, parce que nous, comme on vivait plutôt l'éducation, c'était pas obligatoire, parce que ça peut être obligatoire de devenir coopérateur. Ça, c'est légal. Vous restez 2 ans et vous devez choisir, et sinon, vous pouvez être. C'est dans la loi. Si vous ne voulez pas être coopérateur, vous sortez de l'entreprise. Et nous, on n'avait pas mis ça. Mais la génération qui arrive, elle a mis que ça devait être obligatoire.
L'obligation.
Et donc, c'est déjà changé.
Et les coopérateurs, les coopérateurs, ce sont les éleveurs.
Ah non, pas du tout.
C'est les employés.
C'est les ouvriers.
Quelle est la place de l'éleveur, puisqu'en fait, vous
connaissez. Justement, alors voilà. Nous, on a établi avec eux des relations équitables, c'est-à-dire on paye plus la laine, mais c'est comme s'ils étaient dans la coopérative économiquement, puisque c'est la réforme coopérative. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est volontaire de notre part. En réalité, ils sont clients-fournisseurs.
Parce que
ils sont clients-fournisseurs.
Oui, c'est clients-fournisseurs.
Non,
on ne peut pas rentrer formellement.
Ils sont clients-fournisseurs.
Et le capital de la coopérative, en fait, c'est les coopérateurs.
Oui, c'est que les coopérateurs.
C'est pas les producteurs.
C'est pas les producteurs.
D'accord.
Une coopérative agricole. Voilà. C'est une coopérative industrielle.
On est des industriels.
D'accord.
Alors que nous, on souhaiterait le contraire. Mm-hmm. Même trouver, justement, il faudra trouver des solutions mixtes. Mais ça.
Jusqu'à l'accès à vos produits au plus grand nombre. Parce que finalement, c'est assez confiné quand même. C'est des produits de qualité dont tout le monde ne peut pas avoir accès.
Non, c'est faux.
C'est faux.
Bah, si, quand tu regardes les tarifs.
Non, c'est faux. C'est faux.
C'est accessible à tout le monde.
Non. C'est pas très juste économiquement sur le système général. Nous, par exemple, on fait des matelas pour montrer qu'on est territoriaux. Si on fait des matelas, c'est parce que ça nous permet de travailler avec plus de 200 éleveurs. Parce qu'on pourrait faire des produits luxe et on l'a fait. Et donc, il se trouve qu'il y a des gens qui voulaient relancer la soie des Cévennes. Vous en avez entendu parler. Et ça a été des amis et on a collaboré, on a mutualisé des trucs pendant un moment.
Bon, mais là, c'est un marché de niche. C'est un marché de niche. C'est les gens qui peuvent se le payer qui vont acheter en Cévennes. La démarche est très bien, coopérative, c'est très bien, mais non. C'est un marché de niche.
Eh ben, j'essayais de donner les éléments constitutifs de la chose. Bon, on peut aller plus directement. Nos matelas, c'est une moyenne gamme.
Non, mais je parle de l'ensemble des produits. Je ne critique pas la démarche, parce qu'on ne peut qu'adhérer, effectivement.
Ouais. Mais ce n'est pas une démarche. C'est l'économie.
Le produit final, tout le monde ne peut pas se le payer.
C'est l'économie, c'est-à-dire que nous, ce sont des Français qui travaillent. Donc avec les Français qui travaillent, c'est du prix de revient ce qu'on vend. C'est juste le prix de revient.
Oui, c'est du prix de revient. Donc la question, c'est, est-ce qu'il ne faut pas, plus généralement dans la société, payer les choses à leur juste valeur, mais rehausser le niveau de vie de tout le monde?
Non, quand je dis moi. Non, je dis comment. Alors, je vais le dire à l'envers. Je le dis à l'envers. Comment ça se fait qu'on supporte d'être nourri, et pratiquement nourri, et habillé par la planète, et des gens qui vivent dans des conditions du 18e siècle?
Justement, il faut pas. C'est ça.
Mais la question. Mais vu que tu le supportes ou pas, il n'y a pas de. Où est ta marge de manœuvre par rapport à ça? On n'a pas de marge de manœuvre. Ça coûte rien. C'est-à-dire, un t-shirt comme ça, c'est quelques centimes à la production.
Mais c'est ce qui crée le marché de niche, justement. Quand on tape dans la qualité, il y a une image.
Mais c'est le mot niche qui est un mot, justement, du marketing.
C'est du marketing.
C'est du marketing, c'est tout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et nous, normalement, on jette le produit. Ben nous, maintenant, on traite 60 tonnes de laine. Elle est vendue en vente directe. Les matelas, on en fait 1000 par an. C'est en train d'augmenter. Les matelas, ça reste une vie chez toi. Donc, même les couettes. On fait des couettes, elles tiennent 20 ans. Le prix qu'on les vend, nous, en fait, on travaille pas à la marge. Tous les commerciaux travaillent à la marge. Ils achètent, ils vendent, et c'est la différence qui fait que... Et ils regardent que ça. Nous, on ne regarde pas ça. Nous, en fait, on essaie de faire en sorte que chacun s'en sorte. Donc, on paye plus cher déjà la matière première. Et après, et voilà. C'est que du travail français. Et donc, ça veut dire que c'est le prix que toi, tu considères être le prix normal. C'est un prix anormal.
Mais c'est pas ça la question. Non. C'est pas ça la question. Ah, oui, la question, c'est que si tu es au SMIC, point.
Moi,
je ne remets pas en cause la démarche.
Ah oui, mais non,
au contraire, c'est une démarche non valable.
Mais dans le SMIC, à dépenser, tu vas acheter bio, mais dans le SMIC, pour acheter tes pommes à 5 euros le kilo. C'est ça la question de fond.
Mais écoute, on a vu une conférence du gars qui est en France, il doit avoir 90 ans maintenant, qui a lancé les enquêtes d'opinion. Et il a dit, maintenant, les gens sont tous avertis. Alors, je vais vous dire une chose. Dans la ZUP, il y a des gens, ils ont des... Je ne parle pas des délinquants. Hein. Il y a des gens, ils ont des grosses bagnoles, ils mettent tout dans la bagnole. Il y a des gens, ils mettent tout dans
la bagnole. Non, mais attends, on ne va pas refaire la société ce soir. On parle des scopes.
Si votre produit qui est 20 ans, ici, ces 20 dernières années, qui a pas acheté 3 couettes ou 4 couettes
il faut réfléchir. Non, mais parce que vous parlez de démarche, c'est pas une question de démarche, c'est de la réalité économique. Une couette qui tient 20 ans, parce qu'elles tiennent 20 ans nos couettes, le prix qu'il y a, tu le dises, à la minute de sommeil de qualité, je veux dire, c'est donné.
Mais
nos matelas, on les jette pas tous les 10 ans, on les refait, ça fait la moitié du prix.
C'est une démarche
curieux parce que c'est aussi la méconnaissance de l'économie. On peut se faire une économie autrement et elle fonctionne. Alors je peux donner un choix. Nous, on a le plus grand salon à Paris et on est en train de le préparer. On a 35 mètres linéaires et on est 10 à vendre. Voilà. On vend plein de matelas à Paris, mais nous, on peut livrer à Paris. Et pourquoi on livre à Paris? Pourquoi on livre à Paris? Il faut être fou pour livrer des matelas à Paris, à partir de Saint-Pierre-Ville. C'est très simple. Livrer à Paris, ce n'est pas évident. Quand on expédie au début, c'est que l'espérance qui nous fait avancer. Hein. Au début, c'était livré. Maintenant, ce n'était pas livré. Il y a une personne dans l'entreprise qui passait sa vie à traiter des problèmes d'assurance. Parce qu'en gros, ça pourrit quelque part, c'est livré dans les mauvaises conditions, la personne ne s'en rend pas compte, etc. Et donc, c'était notre problème. Et bien maintenant, on livre directement tout ce qui est vendu en novembre, c'est livré avant Noël. Alors, livrer à Paris en temps normal, c'est difficile. Livrer avant Noël, c'est impossible. Donc voilà, ça veut dire que c'était une catastrophe et ça nous coûtait de l'argent. Et bien maintenant, on livre.
C'est-à-dire que vous avez monté une partie de l'entreprise qui est en fait d'un camion, deux camions et des chauffeurs.
Oui.
C'est ça que ça veut dire.
Et oui, on a des chauffeurs, c'est-à-dire que nous, on fait tout.
Vous n'externalisez pas
très peu.
Très peu de choses.
Alors vous allez voir le résultat économique. Le résultat économique, c'est qu'en gros, on livre chez les gens. Nous, on n'a plus de personnes qui travaillent sur les problèmes d'assurance, ça devient très rare, parce que même on ne récupère pas les produits, mais pour les gens, ils viennent vers nous. Ils ne risquent pas de trouver dans la nature les matelas, ils sont contre nous, alors qu'on n'est pas les responsables de la livraison. Mais c'est comme ça. Et bien voilà ce qui se passe, c'est que se débarrasser d'une literie à Paris, si c'est des personnes âgées, on ne peut pas y arriver. Ça coûte des fortunes.
Moi, j'ai perdu.
Eh bien, nous, on le fait. Non, mais attends.
Débarrasser d'une literie à Paris.
Mais oui, ils achètent un matelas.
Comme ils amènent le matelas neuf, ils vont prendre le vieux et il va le remonter, peut-être.
Moi, je te parle de choses concrètes, c'est-à-dire que voilà ce qui se passe dans ce qu'on fait. Je ne fais que du témoignage. ce qu'on fait, c'est que nous, on va le faire, on a fini par le faire parce que finalement, on avait un plein temps sur les problèmes d'assurance. C'est un truc con de faire ça. Maintenant, on n'a plus de problèmes d'assurance, on livre chez les gens. Et eux, comme ils ont du mal à se débarrasser à Paris d'une literie, on l'amène. Donc, on rend un service supplémentaire qui est très intéressant. Et enfin, les gens, on a rendu un service et on a des clients. Nous, le catalogue, en fait, il a un rendement invraisemblable parce que les gens deviennent des gens avec qui on discute en permanence.
La question, c'est comment rendre tes produits accessibles au plus grand nombre?
Ça veut dire que elle est irréaliste.
Je suis convaincu que c'est un marché de niche.
Parce que tu te mets entre niche et grand nombre. Ça n'existe pas.
Non, c'est pas grand nombre. C'est produit de qualité qui rémunère à la fois celui qui va te fournir la laine. Je peux finir. Merci. Tu vas rémunérer celui qui te livre la laine, les employés qui vont la tisser, les commerciaux qui vont vendre les produits.
C'est ce qu'on fait. Et tous ces gens payés.
D'accord avec toi. Ce que je pose comme question, c'est comment on fait pour que tous ces produits de qualité soient accessibles au plus grand nombre.
Soit moins cher.
Le but, c'est que c'est pas une question de prix, c'est une question de travailler globalement.
C'est pas possible, c'est ce que j'essaie d'expliquer.
Voilà, pour l'instant, la planète, c'est pas possible. Dans notre système, c'est pas possible.
Dans notre système, on est habillé. Non, le problème, c'est un problème de résistance économique globale qui fait qu'actuellement, et si ça continue, c'est la planète qui va faire tout ce qui nous est vital et nécessaire. Voilà. Et puis, ça sera même pas cher. C'est ça, le truc.
C'est
pas
possible. Toujours moins cher.
Ouais. Moi, on est dans le textile. Il n'y a plus de solution dans le textile. Le problème, c'est l'état de déstructuration. Les gens, vous êtes pas au courant. L'état de déstructuration.
C'est bien que tout le monde y accède.
Vous savez,
tout le monde a accès.
Je veux ton matelas. Je veux mes pulls. Mais il faut qu'à côté de ça.
Mais c'est l'état du monde. On est dans la planète et c'est le partage du travail dans la planète. Actuellement, la laine de France est lavée en Chine. Toute la laine de France. Et pour rien, elle est lavée. Comment tu veux laver? Il faut laver en France. Il pollue. C'est une saloperie.
Mais oui, c'est pas du nationalisme ou quoi que ce soit.
De laver la laine en France, on est dans les réflexions nationales en ce moment qui commencent à peine. Ça coûte 3 fois plus cher de laver en France. Alors comment tu fais après avec les produits?
J'avais plein d'initiatives pour 47 ans. Lance-le, ce truc. Moi, je vais laver.
Mais non, tu ne laveras pas.
Non, pourquoi?
Le problème, c'est la pollution. Le problème, c'est que. Mais oui, il faut lui. Si tu veux, pourquoi
les. Tu as trouvé des solutions pendant 47 ans.
Maintenant, moi, je voudrais savoir, dans ton catalogue, donc, vous vendez des produits finis, faits à partir de la laine récoltée à 40 km de rayon autour de chez vous,
principalement.
Alors, comment se fait-il que cette laine que tu récoltes, tu ailles la faire laver en Chine et qu'elle revienne?
Dis que la laine de France. Ah oui, mais alors je vais vous dire, alors puisque c'est le lavage, je vais dire la suite du lavage.
Oui.
Alors la suite du lavage, c'est que nous, on a fait une laverie de laine agréée dans les normes, etc., 50 tonnes par an. Et puis voilà ce qui nous est arrivé, il y a eu la sécheresse déjà avant. Et donc, on s'est retrouvé sans eau avec 50 tonnes de laine dans les bâtiments, dans la soie de stock. Donc, un plomb, on n'avait pas pensé à ça. Alors, donc, après, on a regardé à l'extérieur. Puis, on a compris que l'autarcie, ce n'est pas une solution. Moi, je ne raconte que des faits. Hein. Donc, après, on a cherché une laverie. Mais la laverie, il y en avait une qui avait survécu en France. Et elle était à Sauvigny, dans l'Allier. Elle y est encore, mais voilà ce qui s'est passé. Le gars est décédé. Et donc, elle était sous tolérance par rapport aux normes de traitement. Ce qui est classique, c'était vieux, donc on laissait faire. Et bien maintenant, on ne laisse plus quand ça change. Voilà. Et bien, il y a un gars qui a racheté, qui est un commercial de la laine, on ne sait même pas pourquoi il a acheté, mais le prix du traitement de l'eau, simplement de la laverie, qui est une petite laverie, c'est 250 000 euros. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ça redémarre. Donc, après, les choses qu'on faisait, là, ça vous montre la déstructuration dans laquelle on est en France et en Europe. Quoi. Ce qui se faisait à Lavelané, qui était Mazamet, c'est fini. Il n'y a plus rien, pratiquement. Donc, ça ne se fait plus. Nous, on a un peu travaillé pour certains petits trucs avec eux, mais ça a disparu. Après, on a été à Terrassa, qui est la ville de Barcelone, à côté de Barcelone, l'industrie de Barcelone. Et bien, maintenant, les gens qui travaillaient un peu pour des gens comme nous, ils sont en système de groupe, donc ils vont disparaître. Et c'est déjà parti. Voilà. Et maintenant, c'est Biella, en Italie. Et si ça s'arrête à Biella et ils montent, on les voit monter en Europe, parce que maintenant, comme il n'y a plus personne dans ces milieux, tous les gens sont solidaires ou se tiennent au courant, en gros, si eux ils disparaissent, c'est la frontière autrichienne de l'Allemagne et le nord de la Belgique, le lavage de laine. Tu vois un peu ce que ça représente? Et bien après, sinon, c'est la Chine. Et la Chine, en fait, comme c'est deux fois moins cher que ça peut coûter en Europe, comment tu fais, même si tu t'organises, tu doubles le prix du lavage et de la laine lavée, et à partir de ce moment-là, les prix augmentent. Donc, c'est tout. Je veux dire, c'est plus nous qui décidons, c'est l'économie mondiale qui décide. Et nous, on essaie de faire un effort, on est à contre-système pour arriver à faire quelque chose. Et en fait, on dit que pour l'instant, ce qu'on a fait, alors que normalement, on jetait la laine, nous, on travaille maintenant par 60 tonnes, on donne des revenus supplémentaires aux éleveurs depuis le début. Et c'est tout ce qu'on fait.
Pour les employés, on peut avoir une ordre d'idée pour les salaires.
Oui, c'était la question que j'essaie de poser.
Alors, les salaires,
quelle est l'échelle là?
L'échelle, c'est 1,3.
De 1 à 1,3 ou de 1 à 3?
Non, de 1 à 1,3. Donc, c'est égalité de salaire, en fait. La théorie, c'est égalité de salaire.
Et ce sont des salaires de base?
Oui, c'est le SMIC.
C'est le SMIC.
Voilà, on est tous au SMIC, même les dirigeants.
Non,
sauf les dirigeants, parce que en fait c'est eux 1,3, moi je suis dirigeant, 1,3, parce que ça correspondait au fait que leur revenu net était plus faible parce que les cotisations sont supérieures. Donc on a juste égalisé sur ce...
Pour compenser les cotisations.
Donc tout le monde est tous
SMIC. Et vous avez l'intéressement dans la SCOP, chaque salarié.
Alors c'est une entreprise à participation. Voilà. Donc si ça marche bien, on peut avoir des mois supplémentaires. Mais en fait, on est limite avec... C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est une économie limite, le textile. Tout est en train de partir. Et le problème, il est encore plus grave, c'est les savoir-faire qui disparaissent.
Et justement, ces gens qui maîtrisent les savoir-faire et qui sont derrière le métier à tisser avec du bruit, de la poussière, et qui sont
le CHSCT, c'est ça qu'il veut dire.
Attends, Jean, je vais finir.
Il est assez standard, le conseil.
Pardon, si tu veux me dire quelque chose, dis-moi-le à moi.
Mais tu l'as entendu.
Ouais. Mais justement, adresse-toi à moi, c'est plus facile. Comme ça, on peut échanger.
Je parle des
salaires de base qui sont globalement en France très, très, très moyens, moi je trouve, selon moi. Et dans ton entreprise ou la COP, tu parles de salaire de SMIC.
Il y a des SCOP très riches parce que ça marche pour elles.
Je vais finir encore une fois, excuse-moi. Je trouve ça, ce niveau de salaire pour la qualité du produit qui est rendu au final et l'implication des ouvriers qui ont un vrai savoir-faire, je trouve ça assez moyen.
Oui, bien sûr. J'ai rien à dire là-dessus. Parce que si tu veux, nous, on considère que c'est. On fait ça parce qu'on pense que c'est utile. Et si on peut, si on pouvait être, si on pouvait avoir des résultats, si les Français payaient un peu plus cher, on aurait des résultats et on aurait des salaires. Parce que le salaire, c'est pas ça, quoi. On dirait que le salaire, c'est ça. Mais dans l'économie, si tu as un chiffre d'affaires et des résultats, tu peux avoir des salaires que tu peux augmenter, et puis tu peux avoir des investissements si tu n'y arrives pas. Et nous, dans le textile en France, on ne peut plus y arriver. Donc nous, c'est un effort qu'on fait. Pour produire de la qualité, tu peux dire c'est héroïque. Voilà, tu pourrais dire c'est héroïque si on veut, mais nous on s'en fout. Je veux dire, on l'a pas vécu comme ça, mais on n'a pas le choix. Si Sinon, on paierait encore moins cher pour sortir des prix, pour répondre à la première question. Si on voulait faire en sorte que beaucoup plus de gens achètent, il faudrait que les gens travaillent gratuitement ou payent encore la moitié d'un salaire de SMIG. C'est pas possible. Parce que nous, on est au prix de revient, mais vraiment. C'est du prix de revient. Le prix du produit que vous voyez là, c'est du prix de revient.
Je te crois sur parole, mais en fait, finalement, c'est le modèle qui fonctionne pas dans notre système, alors.
Oui. Pourquoi il fonctionne pas? Ça fait 40 ans qu'il marche.
Mais il marche.
Et il est en train de se développer. Pourquoi tu dis ça?
Ben, parce que tu dis toi-même que tu payes tes ouvriers au SMIG.
Mais je ne paye pas mes ouvriers, j'ai pas d'ouvriers. Je me paye au SMIG, moi. J'ai pas d'ouvriers. J'ai pas d'ouvriers.
Ce sont des gens qui sont copropriétaires
On est d'accord.
Il nous manque que j'aime prendre soin.
C'est juste, ils ont décidé ça ensemble. C'est pas un truc qu'ils subissent par une décision d'une direction. Je pense que ils l'ont décidé pour avancer la production, pour pérenniser leur travail, d'accord. Mais c'est leur décision. C'est pas un dictat d'un PDG que l'ouvrier subisse. Je pense que c'est peut-être là la différence.
Je suis d'accord avec toi, c'est pas un dictat qui descend du PDG, mais le PDG dit on peut pas faire autrement, on est obligé de payer au SMIC. Ce sont ces mots qu'il vient de prononcer.
Il n'y a pas de PDG, il n'y a que des ouvriers.
Enfin, non, mais entre guillemets, il y a quand même des fondateurs.
Non, écoute, en fait, il y a une vocation dès le départ, et ça continue, il y a des gens qui s'intéressent de continuer. Nous, actuellement, les gens qui viennent travailler, parmi les jeunes qui arrivent, c'est tous des bacs plus 5. Donc ça veut dire que ça intéresse des jeunes de cette société, surdiplômés, qui viennent travailler chez nous aux unis.
Ton histoire de bac plus 5, tout à l'heure, tu parlais de la Légion d'honneur, de je sais plus qui, là. On sait que un certain producteur américain a eu la Légion d'honneur aussi, tu vois, c'est donné, c'est un peu ambigu, là, tu vois, c'est pas des références qui tiennent le coup, quoi.
C'est à savoir s'il reste longtemps ou pas.
C'était une reconnaissance voilà. sociale, c'est tout. Ça veut dire que ce qui a été fait à Valence...
Surtout que le SMIC, c'est 1150 euros en France, hein. 1150 euros en France.
Oui, il doit le savoir, hein.
Ben oui, mais voilà, il sait aussi que un loyer, c'est 500 balles.
Ah oui, mais attends, tu ne... les gens qui...
Mais oui, j'essaye de mettre, ouais. d'être le... Non, d'être l'oursin dans la poche, quoi, excuse-moi. Ouais. Hein, mais...
Non, t'as raison de parler de manière plus élargie, parce que là, on est resté que sur l'entreprise. Nous, une des vocations de cette entreprise, c'était de dire on va créer des emplois sur ce territoire pour que la vie revienne. Donc, ça veut dire que nous, maintenant... on est le seul village de Rhône-Alpes et maintenant on rajoute l'Auvergne, de 500 habitants un peu plus, où il y a la maison de retraite qui a 100 emplois et nous, 60 emplois et nous aussi. Donc sur un village de 500 habitants, il y a plus de 100 emplois. Et nous, donc on crée de l'emploi, voilà, et on fait venir des gens pour réhabiter ici. Autre chose, c'est pas fini, on est un village de 500 habitants, il y a une crèche. Parce que l'entreprise est majoritairement féminine et il y a des enfants. Donc ça veut dire qu'il y a une crèche, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'école quand on arrive à ben c'est là-dessus qu'on se bat, nous. On est fiers, on s'en fout, nous, de certaines choses, mais on est fiers qu'il y ait maintenant une crèche dans le village. C'est-à-dire qu'on élargit la chose. Et on n'est pas des ouvriers, personne ne se vit comme un ouvrier. On est des artisans, mais tu sais, il y a des artisans qui travaillent comme des fous. Tiens, les paysans, et alors les paysans, ils travaillent 10 fois plus que toi, que moi. Que nous, les paysans, il faut voir dans quelle situation ils sont, et ils ne gagnent pas leur vie. Et ils sont obligés de les assister, tu trouves ça normal? C'est des Français, hein. Et peut-être que là où on est, il n'y aura même pas les enfants qui vont suivre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire dans ces territoires? C'est l'état de la société qu'il faut regarder globalement, et l'état du monde. Et nous, on est juste un exemple original pour montrer qu'on n'est pas obligé de faire tous la même chose, du tout, hein. Et on ne veut pas être un modèle si les gens veulent faire autre chose.
Oui, François.
Et moi, je veux dire qu'en fait, quand j'écoute ces débats, c'est en fait, il faudrait enlever notre tête parce qu'on est dans un raisonnement d'entreprise capitaliste.
Mais arrêtons,
parce que si on raisonne avec l'esprit capitaliste, ce qui est l'exemple que tu nous montres, on a tout faux. Je comprends très bien, vous êtes une SCOP où les gens adhèrent à la SCOP s'ils veulent, mais ils ne sont pas obligés, avec un idéal. Hein. Vous êtes parti d'un idéal, d'utopie ou je ne sais pas quoi, et vous allez dans ce sens-là, vous allez vers développer la priorité. Ce n'est pas une société qui est là pour aller acheter des actions ou pour aller en bourse, non. C'est de se dire, je me fais l'avocat du diable, hein. Oui. Je refais vivre le territoire parce que je partage avec une équipe les mêmes ambitions, quoi. De donner du travail, de refaire vivre l'économie et de mettre l'homme, comme vous dites souvent, au centre du truc. Voilà.
Moi, je ne suis pas pour l'idéal.
C'est trop fort.
C'est à chaque fois on cherche des solutions. Par exemple, nous, en fait, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Les gens qui font obligatoirement, parce que si tu es sur les routes, hein, c'est un camion, le temps, tu vois ce que ça veut dire, si tu n'es pas pareil comme dans un atelier, eh bien, ils récupèrent un temps. Donc on donne d'une heure. Voilà, on ne va pas sur l'argent, on donne du temps. Donc ça veut dire que les gens ils récupèrent du temps. Donc voilà, c'est juste des... Alors l'autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'on est tous polyvalents. Donc l'autre chose aussi, elle est très importante, c'est-à-dire qu'on a des régulations enfin, qui se font pratiquement d'elles-mêmes, parce que il n'y a pas la spécialisation qu'on trouve maintenant dans ce monde, et en fait, maintenant, on vient nous voir pour notre organisation. On est un modèle d'organisation. Voilà. Et on résout une partie des problèmes, c'est-à-dire que la hiérarchie, les choses comme ça, chacun, c'est pas chacun qui fait les zones, mais en fait, on fait en sorte que la plupart des gens, par exemple, sur les plus de 50 salariés, il y en a plus de 30 qui vendent. Donc c'est les gens des ateliers qui vendent. Vous voyez, c'est-à-dire on a déconstruit la logique de la hiérarchie de secteur, et en fait, finalement... C'est là où on retrouve une performance et un intérêt. Donc nous, on produit de la satisfaction. Les gens n'ont peut-être pas beaucoup d'argent. Et l'autre chose aussi, on pousse à la mutualisation, à l'association, à la coopération, au co-usage, etc. Et autour de nous, il y a des gens qui vivent très bien. Et ils sont contents de vivre ça.
Et vous pouvez nous parler justement alors, de votre organisation, du management, alors vous employez peut-être pas ce mot du coup, mais comment vous vous organisez, vous voulez prendre une décision, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, peu importe une décision, comment vous faites pour prendre une décision, comment ça se passe?
Donc, c'est intéressant parce que nous on reçoit beaucoup de monde sur la coopérative et les gens posent beaucoup de questions, et le fait de la décision, la méthode de décision ou la théorie de la décision, etc., pour nous, c'est assez difficile à répondre simplement. Par la polyvalence, c'est exactement ça. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui est responsable de l'atelier matelas, elle fait elle-même son service après-vente. Vous voyez ? Donc, c'est l'atelier qui fonctionne. Il y a plein de choses qui font que, par exemple, un atelier, lui, il a ses dépenses ordinaires, et s'il dépasse ses dépenses ordinaires, comment il décide? Il veut faire quelque chose, il a une idée. Et bien, en fait, il va voir la gestion et il pose la question à la gestion si ça dépasse son niveau. Et puis, si ça dépasse pas beaucoup, ça se règle comme ça, c'est un problème de trésorerie ou je sais pas quoi. Si c'est plus important, après, il y a plus de gens qui se mettent à réfléchir au problème parce que ça peut rentrer en concurrence. De dépenses d'autres ateliers. Donc, en fait, c'est comme ça, et ça monte comme ça. La seule chose où il y a un problème de décision, c'est quand on entend parler de le dernier projet, dès que ça passe une grande taille, des grands bâtiments, etc. À ce moment-là, c'est un processus beaucoup plus long, où il faut que la plupart des gens soient un peu courants quand même, et quelque chose à dire. Mais il n'y a pas de débat. On n'est pas dans le monde du débat. On est des gens qui faisons les choses. Et donc, on ne les fait pas si ça ne marche pas.
Il n'y a pas de vote non plus.
On a voté, je crois qu'il y a une fois, on a voté il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un truc délicat, c'est parce que c'est en train de changer de direction aussi. Mm-hmm. On a voté une fois dans l'histoire. Mm.
Justement, changement des directions ou changement des générations. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un et ils disent, à Marina Leda, par exemple, ils ont des problèmes à trouver une nouvelle génération qui veulent adhérer avec le même enthousiasme à ce projet. C'est encore le même maire, ils ne semblent pas trouver quelqu'un d'autre. Comment ça se passe chez vous? Et ça se renouvelle naturellement
Jusque maintenant, on peut dire que ça s'est fait, mais ça veut dire que maintenant, depuis 10 ans, toutes les entreprises ont des problèmes, toutes. Quelle que soit la nature de l'entreprise. Parce que c'est les temporalités qui ont changé. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ma génération, avec une formation initiale, on faisait une vie professionnelle. C'est fini. Ça va changer tous les 5 ans ou tous les 10 ans maintenant. Donc c'est tout ça qui a changé. En plus, il y a des gens qui vivent à 6 mois. Il y a des gens qui vivent à 3 ans. Et on regarde même à haut niveau, si vous cherchez à lire des vidéos, à suivre des vidéos de gens de très haut niveau dans le monde de l'entreprise. Et ils considèrent que 3 ans, c'est trop. La durée dans une entreprise, de la présence, 3 ans, c'est limite. Il ne faut pas durer plus de 3 ans. Donc ça, c'est des problèmes de société. Et là-dessus, on ne voit pas ce qu'on peut faire. Donc si ça continue, toutes les entreprises auront des problèmes. Parce que 3 ans, ce n'est pas grand-chose de durée. Parce qu'en plus, nous, on a des savoir-faire particuliers. Il faut du tuilage entre les personnes, il faut qu'elles se rencontrent suffisamment de temps pour transmettre, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est le fait que les gens vivent de manière, voilà, ce que je dis, les temporalités, et la technologie qui fait que ça accélère aussi tous les 5 ans, il faut reprendre quelque chose, fait que maintenant, ça pose des vrais problèmes à la société et aux entreprises, en général. Et je pense que nous, on ressent ça aussi. Nous, on a deux musées et donc il y a des guides. Et ben, moi, là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. On a un musée qui est assez difficile, qui est historique, technologique, etc., sur l'histoire de l'industrie. Et ben, il y a deux personnes qui s'étaient vraiment intéressées à la chose. Et voilà, elles sont parties au bout d'un an. Une personne jeune pour faire sa vie ailleurs, c'est classique. Une autre qui était âgée parce qu'elle a eu un problème personnel, familial, quoi. Donc quand vous faites sur des sujets très sensibles, un an de formation pour une chose délicate, et si vous le faites tout le temps, tout s'arrête. Hein. Non, mais on a les mêmes problèmes. Mais je ne crois pas que ce soit notre problème à nous. C'est général dans la société, là, en ce moment.
Vous parlez de compétences où les gens doivent être remplacés tous les 2, 3, 4 ans, peu importe le chiffre. En matière d'oligarchie, les délais sont beaucoup plus longs. Des Dassault, par exemple, durent beaucoup plus longtemps que 2-3 ans et cèdent leur place à leur fils. Et je pourrais en citer des tas comme ça. Il semble que les puissances du fric ne fonctionnent pas tout à fait sur les mêmes principes que la passation des compétences.
Oui, ça c'est l'argent. Oui, c'est le monde de l'argent. C'est Muriez, hein. C'est Muriez, non, c'est pas ça, c'est Muriez. Auchan, hein, c'est ça, Auchan, c'est.
Ah oui, oui.
Muriez.
Muriez.
Donc c'est encore pire. Hein. Oui, nous, on n'est pas dans le monde de l'argent.
Mmh. Un peu quand même.
Mais l'entreprise y est.
2 millions d'euros de chiffre, ça va quoi.
Ben oui, mais ça paye les salaires.
Oui, mais c'est que ça.
Mais parce que t'as pas les notions.
Pardon?
T'as pas les notions de la chose. Là, tu dis une chose.
J'ai pas les notions de la chose.
Ben non, nous, on crée des emplois.
Il faut réfléchir très longtemps.
Mais tu essaies de faire des études là-dessus. Nous, si tu veux, en gros, on paye les salaires et on a à peine de quoi faire plus, quoi. Et en fait, il y a des années, c'est limite sur le résultat.
Alors, c'est la moitié.
2 millions, t'as 1,1 million de masse salariée. Allez, après 900 000 euros, c'est les matières premières, etc.
Mais oui.
Et après, 1,1 million de masse salariée,
pour 50 personnes.
Au SMIC.
Mais oui,
les 50 personnes.
C'est exactement ça. Les cotisations sociales incluses.
Mais 2 millions. Et c'est 4, un salarié, c'est 4, ça coûte au moins 20 000 euros par année.
Un SMIC, c'est 20 000.
Tu dis par 5-4, tu fais.
Oh là là, l'oligarchie, c'est quand
même. Non, mais ça, c'est des mathématiques.
C'est juste mathématiques.
C'est des maths.
Une question humaine, est-ce que la mamie que vous avez rachetée en même temps que la filature, elle a vu la filature refonctionner?
Alors, elle a vécu avec nous pendant pratiquement entre 10 et 15, ça fait 12 ans.
Donc, elle a vu refonctionner et est-ce qu'elle a pu
transmettre? Elle a vu démarrer, oui.
Est-ce qu'elle a pu transmettre son savoir?
Non.
Non.
Non, parce qu'en fait, on n'a rien récupéré de ce qui, de ce qui était avant. C'était un très, très mauvais état. On est reparti à zéro sur le matériel, sur beaucoup de choses.
Donc, vous avez investi sur du matériel, mais c'est pas de la récupération.
L'entreprise est riche. L'entreprise est riche. Parce qu'on a construit. On a toujours avancé. On a du matériel, on a plein de choses. Alors, l'autre chose aussi que je n'ai pas dit dans la logique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on faisait la croissance aussi. Hein, tout ça, ça va faire peur, ça va rebondir. Mais nous, parce qu'on fait la restructuration dans des milieux qui disparaissent. Donc, on considère qu'on se donne le droit de faire la croissance, mais par diversification. Donc, on a un domaine touristique, on a un domaine de laine et on a un domaine alimentaire. Et donc, on a un restaurant maintenant. On a une petite restauration aussi, un café-librairie. Et puis, on a un atelier de transformation, qui fait des bocaux, qui est au service de tous les agriculteurs qui veulent transformer sur le territoire. Donc, à chaque fois, on réfléchit à quoi...
Ils amènent leurs produits, vous leur transformez ?
Oui, ben là, oui. Ça peut être des escargots, ça peut être des truites, ça peut être même des bouchers qui n'arrivent pas à se mettre aux normes, des petits bouchers qui viennent faire du vide chez nous pour faire la vente directe. Donc en fait, c'est simplement que nous, l'histoire qui est derrière, c'est qu'on est au service du territoire. On considère que la fonction, le métier, on le dit dans notre communication, le métier de la coopérative Ardelaine, c'est le territoire, c'est son métier. Et qu'elle est prête à faire tout ce qui pourrait être utile au territoire. Et c'est donc ça veut dire c'est
les
56
salariés, c'est tous les domaines.
Alors oui, sur la polyvalence, non, c'est-à-dire que c'est on fait en sorte que les gens, si vous voulez, quand des ateliers ont des actions, en fait des métiers à peu près qui se ressemblent un peu, eh ben on crée des circulations obligatoires. Parce que comme ça, quand ça choque d'un côté, ce qui fait qu'en gros, quand vous traitez un problème général entre deux ateliers, en fait, si vous voulez, on est arrivé, parce que nous, on travaille avec des universitaires maintenant, donc on est arrivé à la contre-productivité de l'hyperspécialisation. Ça veut dire que chaque bulle, chaque domaine, chaque boîte crée son langage et juge que ce qui est urgent et important, c'est ce qui lui arrive à elle. Le reste, c'est le monde, c'est les autres. Et donc, quand vous avez même dans la même entreprise deux ateliers qui sont dans cette situation, faites une médiation entre deux ateliers. Mais s'ils ont travaillé ensemble, ils voient à peu près les problèmes des autres et ça fait passer. Et donc, si vous continuez à faire ça d'une manière verticale et horizontale, c'est-à-dire que les gens, surtout dans le commerce et puis dans la production, qui se retrouvent dans l'attente. Par exemple, une personne qui vient pour... Actuellement, on en cherche pour des choses administratives avec des niveaux de compétences. Non, on a des niveaux de compétences corrects hein, sur l'ensemble de l'entreprise. Pas les salaires qui vont avec. Mais cette personne-là, on va l'obliger parce qu'on a eu des problèmes avec ça. On a eu des gens qui étaient pas rurales du tout et qui disaient dans les visites des conneries sur les paysans, quoi. Ils en avaient jamais vu. Donc ils disaient que c'était des feignants parce qu'ils étaient soutenus par des primes. Ils étaient des assistés, quoi. Alors qu'ils travaillent plus que nous, quoi. Ils ont pas de... voilà. Mais vous pouvez le dire. Donc cette personne-là, elle va faire une journée de tente, donc elle aura les pieds dans le fumier, elle va manger avec des vrais Français, qui... alors la nourriture, parfois, c'est très correct. On lui fait vivre une chose pour qu'elle change sa tête, quoi, sur le problème paysan. Et donc on le fera même, parce que quand on collecte la laine, c'est des tonnes, et c'est sale, c'est lourd, et voilà. Alors pourquoi ça serait que des gars? Ben, il y a des filles qui vont. Voilà. Vous voyez, donc en fait, les circulations un peu à travers, quand c'est utile et quand ça a un intérêt, c'est recherché. Et ce qui fait qu'après, les gens savent, et ça on l'avait appris dans les chantiers, les gens finissent par savoir que chaque personne est indispensable dans l'entreprise et que si chacun fait sa part, ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas les conflits classiques des entreprises. Il y en a d'autres peut-être, mais... ça règle énormément de choses sur notre entreprise. Donc c'est notre forme d'organisation finalement peut-être plus que le coopératif lui-même. Parce qu'en gros, pour être coopérateur, mais nous on l'avait vu au début quand on était plus éducateur, mais si on demande une part minimum importante, ben, la personne, si elle ne l'a pas, on a eu des cas, elle dit « Oh, non problème !» Mais oui, elle avait l'argent. Tu sais pas bien l'argent, hein, mais elle l'avait. Donc elle rentre, elle est coopératrice. Et puis on a eu une fois un jeune, et c'est un arrêt, et lui, il n'avait pas l'argent. Et ben, il a fait l'effort d'aller le trouver. Et il a fini par avoir l'argent, et ça, pour lui, ça a été une fierté. Donc ça ne se vit pas de la même manière. Les choses qu'on croit égales ne sont pas égales. Et nous, on fait attention à ces choses, plutôt. Donc nous, on était plus éducatifs, donc en fait, il n'y avait pas de... Mais les locaux, ils considèrent qu'il faut que ça soit plus obligatoire. La vie change, quoi. Les choses changent, et elles changeront encore. Et ce qui a été fait, est fait.
Voilà. Après, tu oublies peut-être de dire, je ne sais pas comment... quand tu as évoqué les salaires, ça avait l'air d'être un problème pour l'audience de ce soir, pour certains. Il y a peut-être un désavantage aussi lié. Tu évoquais la garderie, les logements, les choses comme ça.
Voilà,
ouais.
Les choses se passent les vêtements.
Avec un SMIC en récupérant, c'est dire. Laisse-le entre guillemets, si on a des avantages à côté, ça peut paraître très correct.
Oui, nous, ce n'est pas des avantages, c'est une autre économie. Alors, non, je n'ai pas expliqué comment on a réussi à financer les choses, parce que nous, nos parents ne voulaient pas nous aider, parce qu'on avait des professions, on avait des métiers, on avait des carrières devant nous, et on changeait, ils n'étaient pas d'accord, les banques n'en parlant pas, personne ne voulait nous aider. Et en fait, on était aussi dans une situation où, c'était facile à l'époque de trouver du boulot, mais quand tu es un peu insolent, tu fais pas des carrières avec des salaires si importants que ça. Et bien voilà ce qu'on a fait. On s'était rendu compte dans les chantiers chinois qu'on faisait, à un moment on était 20 personnes pour un grand week-end, 3-4 jours, là, genre mai ou plus. Et puis il y avait 20 voitures pourries qui attendaient. Puis on s'est rendu compte qu'elles ne bougeaient pas, qu'elles ne servaient à rien. Ou quand il y en a un qui voulait faire un truc, ben, il prenait la voiture de l'autre parce que l'autre était mal garé, etc. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais on avait un copain mécano dans notre bande, puisqu'on avait plein de compétences, et bien on a fait un système informel de co-usage de voitures. Et au lieu d'avoir 20 voitures, et bien on en avait 10, mais au lieu d'avoir 20 voitures pourries, on avait une voiture neuve. Ça nous permettait de faire des voyages même en Europe si on voulait. On avait un camion, on avait un tracteur aussi, et puis des voitures pourries. Et on avait un mécano qui s'occupait de ça. Tu vois, et en fait, ça nous coûtait deux fois moins cher sur chaque budget. On a fait pareil avec la nourriture. Alors, on n'était pas dans le bio au début. Hein. On allait à Leclerc, parce que le Leclerc de Valence le faisait, on avait négocié. Et il y a une personne qui allait et qui ramenait avec un véhicule des palettes de nourriture moins chères, directement de chez Leclerc. C'était préparé et on allait chercher la palette. Vous voyez ? Eh ben, on gagnait 20%, 30%.
Vous aviez
et puis l'habitat,
drive.
Pareil.
Vous aviez le drive.
Et pareil sur l'habitat. Alors là-bas, il y avait beaucoup de ruines, mais à chaque fois, l'habitat, ça le permettait à des gens. Voilà. Donc si vous mettez, et ça c'est un modèle qui est reproductible, vous prenez 20 personnes, voilà, et vous dites, à partir de maintenant, on s'organise mieux, beaucoup mieux, sur les voitures, l'habitat et la nourriture, et bien de pauvres, vous devenez riches. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais dépassé le SMIC, et on avait des capacités d'investissement. Et on a même eu un problème, c'est que dans les premiers chantiers, c'est nous qui financions les chantiers. C'est le collectif, on appelle ça le collectif, qui finançait le chantier. Et on a arrêté parce que les gens ne comprenaient pas en face, puisque les chantiers de jeunes sont financés, sont aidés. C'est un truc d'éducation populaire et voilà, c'est normal que ce soit financé. Et c'est parce qu'on ne voulait pas de subvention qu'on était des gens douteux. Donc après, on a pris des subventions, on a arrêté de financer. Mais on pouvait le faire. Et donc ça veut dire que vous mettez 20 salaires personnels, annuels. Eh bien, sur les 20 salaires, on pouvait en investissement pur mettre 20%. Et on n'a jamais eu de problème d'argent, ça a duré 20 ans, on n'a jamais eu de problème d'argent entre nous. C'est le co-usage, c'est ce que font maintenant les gens. C'est en train de se faire. C'est le co-usage, alors ils s'organisent avec les moyens de l'époque, hein, parce qu'on n'avait pas ces moyens-là, c'est en train de se faire. Ouais, tu vois, même les ouvriers, en fait, comme il dit, le jeune homme, là, et en fait, ils sont tous en co-usage.
Merci pour les jeunes.
Ouais. Tu pourrais être mon petit-fils, peut-être. Hein. J'ai 62 ans.
Ouais, ça fait 20 ans de plus que moi.
Ah oui.
Il fait jeune.
Ah oui, tu fais jeune aussi.
Je dors dans un congélateur, c'est pas zéro.
D'accord.
À propos du patrimoine industriel donc, que vous avez créé, à qui il appartient ?
À la coopérative.
Comment ?
À la coopérative.
À l'ensemble des sociétaires, non ?
C'est la coopérative, c'est l'unité. Alors ça veut dire que tout ce qui a été fait, c'est la coopérative. Alors c'est intéressant aussi, tiens, on peut parler d'un autre sujet. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, normalement, quand ça change de propriétaire, c'est vendu. C'est vendu et acheté. Donc ça veut dire que la personne, elle a acheté même, et bon, ça arrive, les petits hôtels, des trucs comme ça, elle avait dépensé une fortune, elle n'a peut-être même pas de salaire avec, hein, derrière. Mais dans le système coopératif, c'est des parts. Donc tu pars avec des parts, et il faut que les gens qui arrivent amènent des parts, quoi, puis ils ressortent avec leurs parts. Donc ça ne déstabilise pas moins que s'il peut y avoir des...
C'est-à-dire que les parts sont...
Quand vous êtes parti à la retraite, vous avez vendu vos parts à quelqu'un qui est rentré ?
Non,
qui voulait rentrer,
ben non,
parce que vous avez conservé ?
Oui, moi je les laisse. Et après, enfin, dans la coopérative, ça avait déjà été fait. En fait, c'est tout un arrangement. Ils calculent ça, les gestionnaires, ils calculent ça. Comment on peut faire en sorte de rendre le capital, mais on l'étale. C'est la négociation de personne à personne, et c'est étalé. Et nous, en fait, on étale. Avec Béatrice, nous, on dit, bon, ben voilà, on ne fait pas, je prends tout de suite, et puis je me barre. Parce qu'en fait, on est aussi encore... On est un peu dans le monde ancien, c'est-à-dire que les vieux, le rapport des vieux et des jeunes, c'est pas brutal. Donc nous, on veut bien aider les jeunes qui sont derrière nous, et puis attendre un peu, et puis on récupérera quand on pourra. C'est moins brutal. C'est juste moins brutal.
Comment ça se passe un recrutement ? Vous avez un atelier qui est en expansion, vous apercevez qu'il y a une niche, et donc vous dites ça vaut le coup de foncer et de créer. Ça vaut le coup de créer un emploi de plus pour augmenter la production, puisque là on sait qu'on va vendre, c'est une demande. Alors comment se passe le recrutement ?
Alors, il s'en passe en ce moment, donc je vais dire ce qui se passe en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une personne RH, en fait, on a les fonctions. Hein. Oui. C'est elle qui produit l'organisation. Nous, le gros problème qu'on a, c'est l'opérationnalité. C'est tellement compliqué ce qu'on fait qu'il faut qu'il y ait une personne qui fasse presque...
Qui ait l'œil sur tout.
Semaine par semaine. Le nombre d'heures qui doit être à disposition pour produire tout ce qu'il y a à produire. Mm-hmm. C'est un truc comme ça. Donc, il y a déjà ça. Autre chose, nos agendas sont perméables. C'est-à-dire qu'en fait, moi, même quand j'avais des responsabilités, je pouvais découvrir sur mon agenda des choses que j'avais à faire. Seulement, normalement, il fallait que j'aie le temps de réagir pour savoir si c'était impossible pour moi. Mais donc, ça fonctionne comme ça. Donc c'est ça qui fait que ça change les choses. Alors pour le recrutement, eh bien en général, c'est les personnes qui sont concernées. Si c'est plus important, c'est ça élargit. C'est comme ça. C'est-à-dire si c'est l'atelier qui correspond. Après, si... c'est rarement... Le CV, on s'en fout. Les CV, pour nous, ça n'a aucune importance. Donc c'est des rencontres. Après, je pense que selon les de quoi il s'agit ou l'urgence, il y a un temps d'atterrissage. Et puis après, ben, moi j'ai vécu une chose il y a quelques temps. Il y a une personne qui était extraordinaire par rapport au processus RH. Et puis on l'a fait passer dans plusieurs ateliers. Et c'était curieux parce que personne n'avait vu ça. Mais la plupart des ateliers, on dit, des ateliers de 400 personnes, hein, et on dit, nous, on ne travaille pas avec une personne comme ça. Eh bien, la personne, elle est rentrée. C'est tout. C'est fait, quoi. Parce que nous, on sait que c'est le côtoiement dans des ateliers des gens, c'est aussi important que la compétence est exercée. Mais ça, c'est fait. les gens RH ont dit OK. Puisque...
Donc la personne avait candidaté, la RH avait recruté et l'avait présenté à l'atelier.
À plusieurs ateliers, non, un seul atelier, on aurait dit tiens, il y a un problème personnel.
À l'essai. Oui, donc la période d'essai.
Voilà, la période d'essai. Et donc la personne, en fait, elle n'est pas passée au niveau du contact, au travail. Donc c'est non.
Donc elle n'a pas été recrutée.
Ah ben non, pas du tout.
Alors, à contrario, la personne qui se comporte comme qui permet d'apporter donc à la coopérative, donc cette personne-là est recrutée. Est-ce qu'elle doit amener des fonds pour pouvoir obtenir son emploi?
Alors, on va s'en rendre compte de ce que c'est en train de se faire, puisque la loi d'entrée, elle vient juste de changer. Donc, je pourrais le dire la prochaine fois. Je ne sais pas comment.
Jusqu'à maintenant, ça se passait comment?
Voilà. Oui, alors avant, on ne demandait rien. On ne demandait rien aux personnes. On leur expliquait c'est quoi une coopérative. Parce qu'en gros, l'essentiel de la coopérative, c'est qu'il y ait suffisamment de gens qui tiennent la chose. Et puis quand les gens rentrent, il y a des gens... On ne pouvait pas demander à un jeune qui cherche du boulot, dire, attends, c'est comme ça, c'est ça. Et bon, puis on lui laisse des années pour le découvrir. Il y en a qui, après, sont devenus... Il y a plein de gens qui sont devenus après, mais au début, ils ne savent même pas de quoi il s'agit.
Donc, ils ne sont pas obligatoires. Ils ne sont pas coopérateurs en étant embauchés.
Mais maintenant, ça va devenir obligatoire. Ceux qui l'étaient avant ne sont pas obligés d'y aller. Donc, ceux de notre époque.
Oui.
Et ceux de l'époque qui arrivent.
Et qu'est-ce qui le rend obligatoire?
C'est statutaire.
Le statut de l'emploi.
Oui.
Il y a des nouveaux statuts.
C'est au contraire, il y a deux possibilités dans les scores. L'obligation de devenir coopératif ou la non-obligation. Nous, on avait choisi la non-obligation. Mais c'est légal, hein.
Alors si vous aviez choisi la non-obligation, qu'est-ce qui fait que maintenant il y a l'obligation?
Parce que ça a changé de direction.
Ah.
C'est la nouvelle direction qui a fait ça.
D'accord.
Et puis ça a été toute une réflexion de tous les gens qui sont là, puis ils ont décidé que.
Oui, ça correspond un peu à la nouvelle génération.
Oui, oui.
Donc il y a une obligation d'acheter des parts.
Oui, de rentrer des parts. Alors après, il y a des tas de coopératives qui. Qu'est-ce qu'on avait entendu des trucs? Il y avait une imprimerie importante là. Eux, ils exigeaient des sommes. C'était dans une réunion. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Comment les jeunes pouvaient apporter autant d'argent? Et en fait, ils avaient une astuce. Ils faisaient. Je ne sais pas le détail, mais il y avait un sursalaire. Il y avait un sursalaire et un cautionnement. Donc en fait, ils arrivaient à faire en sorte. Et pour eux, c'était une femme qui était responsable dans une réunion, qui l'a bien défendue, parce que tous les autres disaient « Oh, c'est pas aux jeunes, des victimes. » Alors là, elle est éclatée de rire, elle dit « Voilà comment on fait. » C'était des grosses sommes, et en fait, ils faisaient en sorte... Et pour les gens, c'était de l'engagement. Oui. C'était une manière d'engager, et après, finalement, c'était épongé, éponger dans... Au bout de 3-4 ans, c'était épongé, et même ça donnait...
C'est raisonnable. Parce que sur salaire et cautionnement, c'est un crédit, quoi.
Oui, mais c'est-à-dire que si...
Sur 3-4 ans, ça reste raisonnable.
Non, le cautionnement, c'est que si ça se passe mal, c'est l'entreprise qui paye. C'est ça que ça veut dire. C'est juste pour ça.
Tu ne voulais pas... Tu veux taper... Non,
je croyais que t'as...
Je veux gratter le front.
Oui, vas-y.
Oui, est-ce que vous êtes aussi traversé par le débat de savoir si des initiatives alternatives vont faire tache d'huile, vont peu à peu faire leur chemin et puis la société va se changer comme ça, ou s'il y a aussi besoin d'avoir une réflexion sur le cadre global, économique, la politique, sachant que ce que vous faites, ça vous donne déjà beaucoup de force, mais est-ce que vous êtes traversé par ce débat quand il y a des élections politiques? Est-ce que certains disent faut pas voter, ça sert à rien, d'autres sont de différents courants? Parce que le capitalisme peut aussi très bien s'accommoder qu'il y ait dans ses marges des gens qui le fassent autrement, pourvu qu'ils continuent à pouvoir partager le monde comme ils veulent, etc. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous êtes toutes ces réflexions, vous les partagez?
Alors nous, actuellement, on est dans un programme d'Atar Massif Central sur l'émergence. Actuellement, ça bouge beaucoup. On entend dans une période, ça bouge beaucoup. Donc ça veut dire que la société est... Maintenant, par exemple, il y avait le chiffre qui est j'ai entendu hier, non, ce matin, je crois, la croissance de l'économie classique, qui est très forte, en France, elle a augmenté de 5%, et celle de l'économie sociale et solidaire, dans la même période, elle a augmenté de 27%. Alors, elle est toute petite, mais ça veut dire que c'est en train de croître. Donc, donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. On peut dire qu'il y a des choses qui changent. Et actuellement, mais alors la part... Non, mais nous, on est éducation populaire, ça veut dire qu'on n'est pas des gens hors la société. Et moi, j'ai jamais été contre. J'ai toujours été avec. Donc, en fait, je veux dire, alors, je reviens sur des choses strictement personnelles. Moi, je suis de 45. Donc, moi, j'ai vécu le Vietnam, la bombe, la Lune, enfin, toutes ces choses-là qui nous ont marqués, quoi. Et moi, j'étais Cuba, et donc en fait, ça veut dire que nous, on a vu le moment où la planète allait péter, quoi. Et on l'a vu en temps réel. Donc, et tout ça par l'idéologie. Donc, nous, on s'est un peu vacciné de l'idéologie. Voilà. On peut dire qu'en gros, moi, j'ai fait ma vie en dehors de l'idéologie parce qu'en gros, j'ai vu ce qu'elle pouvait produire, quoi. Voilà. Oui, mais... Et donc, non, ça, c'est une réponse sur le politique. Donc, moi, j'ai organisé ma vie sur le faire ensemble. Faire ensemble. On fait au mieux. On est plutôt dans l'émancipation, je dirais. Moi, je suis plutôt dans l'émancipation. Alors après, on fait progresser ce qu'on est capable de faire progresser dans la vie qu'on a. Et puis voilà. Après, moi, j'ai pas de notion suffisamment claire sur l'état du monde ou ce qui peut se passer. Et puis maintenant, c'est tellement compliqué que si la Chine fait un petit machin, c'est tout. Ou la Corée du Nord.
Ça vous rattrape quand même, parce que quand vous dites que bientôt il n'y a plus à y avoir, vous ne pourrez plus faire laver la laine en Europe qui vous fera partir en Chine, ça vous rattrape.
Ah oui, donc, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer, que maintenant c'est mondialisé, le partage du travail. C'est pour ça que ce qu'on pense, quand on pense
trop français... On peut plus éviter cette réflexion.
Oui, oui. Oui, mais pour moi, elle n'est pas politique. Elle est plus globale que ça. Elle n'est pas politique au sens où nous, on vit la politique dans nos passés, nos références. On n'est plus à la hauteur du sujet. Et même je crois même qu'en haut, ils ne sont plus à la hauteur du sujet.
Surtout en haut.
Non, c'est non. Alors, on rentre derrière. Là, il y a des processus en cours qui n'ont jamais existé avant. Hein. Ça n'a jamais existé avant. Alors, donc, ça veut dire la politique, si. Ce qui est en train de se passer, là, j'ai entendu ça, vous avez entendu, qu'en gros, il va falloir payer le même salaire sur les travailleurs déplacés. Bon, ben voilà, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Il faudra bien que ça avance aussi de tous les côtés. Mais je ne crois pas que c'est une chose qui va faire avancer beaucoup.
Non, mais je voulais dire, par exemple, pendant que des gens se donnent du mal pour essayer d'avoir des conditions un peu équitables, on sait qu'il y a des milliards de milliards d'euros d'évasion fiscale, etc. Il faut bien que les citoyens aussi s'en préoccupent, parce que sinon, il y en a qui sont ravis que finalement les gens ne se mêlent pas de ces questions, ne s'y intéressent. Donc je suppose parmi vous, il y a des gens qui s'en préoccupent aussi. Enfin, vous n'êtes pas tous peut-être pareils ou dans votre diversité.
Non, mais, oui, mais nous, chacun est libre dans notre histoire de penser. On n'a pas un accord politique sur...
Vous éclatez à ce
niveau. Non, on n'a pas... On cherche
c'est
pas
le sujet.
On n'est pas une entreprise.
C'est pas votre objectif.
Non, c'est pas... Non, parce que nous, on différencie le monde de l'entreprise, qui à mon avis, a une fonction, du monde politique. Les gens votent autour de nous, les gens ont des idées. Mais on ne part pas du partage de l'idée, de l'accord sur l'idée politique pour agir ensemble. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est la pluralité, tu joues la pluralité. Et tu la joues concrètement. Voilà. Et peut-être que c'est vraiment une tension, mais c'est pas sûr. Hein.
Parce qu'on peut imaginer quand même dans la démarche, ça réunit une conjonction de d'idées convergentes.
Non, c'est pas sûr.
Même s'il n'y a pas un axe politique, on peut s'imaginer que dans la démarche, il y a quand même des convergences.
Oui, ben, c'est pas un lieu de débat sur la politique dans l'entreprise. Il y a trop de différences entre les gens qui sont là, des jeunes, on n'a pas les mêmes, même les âges sont différents, etc. Non, non. C'est le sujet, on partage autre chose. C'est, pour moi, c'est l'entreprise, c'est un monde particulier, oui. Particulier en lui-même.
Bon, je pense que...